Stéphane Sierr, bonjour.
Bonjour.
Alors, après le succès de La Promesse de Shanghai, vous avez pris goût à l'écriture ?
J'ai pris goût à l'écriture, oui, mais je suis malheureusement quelqu'un qui écrit très lentement, et donc le goût de l'écriture, c'est presque un sacerdoce, et ça m'a pris 2 ans pour écrire ce recueil de nouvelles.
Alors, avec Caprice de Chine, vous quittez le roman ?
Oui, parce qu'il me semblait que j'ai voulu faire des nouvelles, parce que il me semblait que je pouvais dire plus de choses, je pouvais écrire plus de choses que dans un roman. Et les nouvelles que j'ai écrites sont souvent, enfin quelques-unes, sont tirées d'entrefilets que j'avais pu voir dans la presse chinoise. Et il m'a semblé que c'était une autre manière de pouvoir parler de la Chine, ou raconter des histoires, peut-être d'une manière plus complète en fait qu'un roman.
Alors, vous dites que la Chine est le pays où l'inouï et l'inconcevable sont déjà réalité avant même d'avoir été imaginés. Est-ce que vous pouvez préciser ?
Attendez, laissez-moi réfléchir à cette question qui est quand même assez difficile. Parce que c'est un pays qui est en tel bouleversement, dans tous les sens du terme, aussi bien psychologique, social, moral, économique, etc., qu'on a l'impression, enfin que j'ai l'impression que tout peut arriver en fait. Tout est possible, aussi bien le pire que le meilleur. Et donc dans cette espèce d'éventail entre le pire et le meilleur, tout peut vraiment arriver. Et donc c'est pour ça que je dis que la réalité peut être... L'invraisemblable, l'inouï, le fou, le complètement irréaliste ou irréalisable peut réellement devenir réalité. Il n'y a plus de barrière, quoi. En fait, j'ai l'impression que dans ce pays, il n'y a plus de barrière morale déjà, mais il n'y a plus de barrière dans tous les sens du terme. Au sens propre, comme au sens figuré, vraiment tout peut arriver. Donc c'est dans ce sens-là que je l'entends. C'est un pays qui est tellement dans un tel foisonnement de débordement dans tous les sens du terme, encore une fois. On a vraiment l'impression que... On peut tout imaginer et cette imagination peut se révéler réalité dans quelques jours ou dans quelques mois ou dans quelques semaines.
Dans ce sens-là. Et c'est ça que vous aimez en Chine ?
Je ne sais pas si c'est ce que j'aime, mais je trouve que pour un écrivain, pour quelqu'un qui raconte des histoires, comme moi je raconte des histoires, hein, je ne fais pas d'autofiction ni quoi que ce soit, donc pour quelqu'un qui raconte des histoires, c'est un matériau absolument... d'une richesse absolument incroyable, quoi. Cette idée de justement tout peut arriver. Et effectivement, parfois, tout arrive. C'est pour ça qu'en fait, les nouvelles que j'écris sont mi-fiction, mi-réalité. Les deux s'entrecroisent. Parce que ce qui est fictionnel aujourd'hui peut très bien devenir réalité demain. Et ça, d'ailleurs, ça s'est vu. Enfin, j'ai écrit 2 nouvelles dont je me suis aperçu quelques mois plus tard qu'elles étaient devenues réalité. J'ai vu des entrefilets dans la presse où effectivement, tiens, ce que j'avais raconté, mais ça n'a c'est tout à fait subjectif, c'est effectivement produit.
Donc le rêve de l'écrivain en Chine. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ?
Qu'est-ce que je fais quand je n'écris pas ? D'abord, pas grand-chose. Malheureusement, il y a une époque où je faisais un peu de traduction et d'interprétariat, etc. Mais bon, c'est pas extraordinaire. Et puis en fait, pour moi, écrire, c'est presque un sacerdoce, quoi, en fait. C'est presque quelque chose de religieux. Et comme j'écris extrêmement lentement... je peux passer plusieurs jours par jour, je travaille à la bibliothèque Mazarine, j'ai besoin d'être dans un lieu public, et à la bibliothèque Mazarine, à l'Institut français, c'est un cadre absolument exceptionnel pour ça, très presque religieux, quoi. On est entouré de vieux bouquins, de vieilles statues, etc. Donc on rentre là-dedans comme si je rentre là-dedans comme si j'entrais dans une cellule, et donc j'ai tout un espèce de rituel. Mon ordinateur doit être à une certaine place, mes cahiers, mes crayons, etc. doivent être bien dans un certain ordre. Sinon, si le rituel n'est pas respecté, je n'arrive pas à travailler. Et donc, je suis là-bas de 10h à 6h du soir. Et je peux, entre 10h et 6h du soir, je ne bouge pas de ma place. Je ne peux pas manger ni rien. Je reste 10h assis comme ça. Oui, comme un moine dans sa cellule, enfin, en train de prier Dieu. Moi, je prie l'empereur. Et donc, je peux écrire une demi-ligne en 8h, comme je peux écrire un demi-paragraphe. Ou 5 lignes, quoi. Mais en général, c'est toujours très... je suis pas un écrivain qui foisonne, qui écrit comme ça au fil de la plume pendant des pages et des pages. Je suis totalement incapable de faire ça. Et donc, en fait, je ne fais rien d'autre de particulier en dehors de ça, parce que tout mon temps, la majeure partie de mon temps, je le passe dans cette bibliothèque à écrire ou ne pas écrire, d'ailleurs.
Et donc, vous avez besoin de vous extraire de votre milieu quotidien. Vous n'écrivez pas chez vous ?
Non, je suis totalement incapable d'écrire chez moi. Alors, je sais pas quelle est la raison, ni même dans un bar, ni même... J'avais une époque, c'était de travailler à la bibliothèque de Beaubourg et j'y arrivais pas. Et j'ai besoin d'être dans un cadre. La promesse de Shanghai, je l'avais écrite à la bibliothèque publique de Shanghai, au quatrième étage, là où il y a tous les romans étrangers. Donc il y avait rarement beaucoup de gens. Et c'était très calme. Et donc j'ai besoin de cette espèce de calme, de recueillement, de sérénité, en fait, qu'on ne trouve, enfin que je ne trouve que dans certaines bibliothèques, dont celle de Shanghai. Et j'en ai fait plusieurs à Paris. Et la Mazarine correspondait exactement à l'univers dans lequel j'avais besoin de rentrer pour pouvoir écrire ou essayer d'écrire.
Alors ça veut dire que Caprice de Chine a été écrit à Paris.
Voilà, exactement, les Caprices de Chine ont été écrits en France. Et, alors c'est intéressant parce qu'en fait, ça fait 25 ans que je vis dans le monde chinois, que ce soit à Taïwan, à Hong Kong ou dans les diasporas américaines ou en Chine, donc en Chine pop. Et comme ça fait 25 ans que je suis dans le monde chinois, que je mange chinois tous les jours, que je rêve en chinois, que je parle chinois, quelque part, à la limite, ça, j'exagère un peu en disant ça, mais j'ai intégré quand même pas mal de choses de la culture chinoise, même d'une manière tout à fait inconsciente. Et il est peut-être pas, enfin, il ne m'est pas obligatoire d'être en Chine pour écrire sur la Chine. La Chine, je la connais, entre guillemets. Je ne suis pas non plus exagéré, je suis qu'un étranger qui a qu'une vision assez partielle de ce que peut être la culture chinoise. Mais j'ai pas besoin d'être là-bas pour écrire. Et comme je vous le disais, la Chine est un pays où tout peut arriver. On peut très bien imaginer, un écrivain qui raconte des histoires, son imagination, il n'a pas besoin d'être sur place pour raconter ce qu'il voit ou ce qu'il pourrait voir ou dire ou exprimer. Et l'autre chose, c'est que je parle de la Chine c'est une espèce de background, quoi, en fait. Et les histoires que je raconte pourraient très bien être racontées je pourrais raconter de n'importe quel autre pays en voie de développement, comme l'Inde ou, je sais pas, l'Indonésie, des pays où il y a une espèce de foisonnement aussi débridé comme il y a maintenant. Et donc, à la limite, le lieu importe peu, quoi, en fait. Il se trouve que la Chine, j'en parle parce que je la connais, j'y ai vécu, etc. Et bon, j'ai tout ce background en moi, donc ça m'est plus facile d'exprimer, de parler de la Chine, quoi, en fait. Mais je pourrais tout aussi bien écrire, si je connaissais, sur les ouvriers mexicains qui travaillent dans les champs de tomates en Californie, enfin bon, ce genre de choses, quoi.
Le tout serait de connaître. Voilà. Alors justement, Shanghai, encore et toujours, c'est votre deuxième ouvrage. Est-ce que c'est la ville que vous préférez ?
En Chine ? C'est vrai qu'elle a beaucoup évolué, Shanghai. Au début, j'adorais Pékin. Et puis Pékin se transforme beaucoup trop rapidement. Enfin, se transforme très rapidement, en bien ou en mal. Mais je trouve que Shanghai, ils ont réussi à conserver cette alliance entre la modernité et la tradition, en fait, parce qu'ils ont compris que, par exemple, les concessions, il fallait pas tout détruire, et donc ils les ont gardées, ils commencent à les retaper. Et c'est une ville qui est bizarrement, encore une fois, à taille humaine. C'est bizarre de dire ça parce que c'est une ville où il y a 23 millions d'habitants et elle donne l'impression d'être tout sauf à taille humaine, mais on peut encore marcher dans les rues. Et c'est des choses que vous ne pouvez plus faire à Pékin, par exemple. Vous pouvez marcher dans d'autres rues à Xi'an ou à Nanjing ou à Hangzhou, mais c'est des villes qui sont un peu différentes de celles de Shanghai. Chaque ville chinoise a toujours un mode de développement, un niveau de développement qui est un peu déséquilibré, qui n'est jamais le même. Mais à Shanghai, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, moi qui adore marcher et qui marche énormément, à Shanghai, on peut encore marcher. Bon, vous me direz que c'est peut-être un plaisir un peu solitaire et plutôt luxueux, quoi. Mais bon, vous me posez la question, quelle est la ville que je préfère ? Oui, je préfère, j'adore Shanghai, voilà, parce qu'on peut, on peut marcher, on peut voir, on peut regarder, on peut...
Et ce serait la raison pourquoi cette ville séduit les étrangers ?
Pourquoi Shanghai séduit les étrangers ? Alors, elle est séduite parce que... d'abord, ça a toujours été une ville un peu cosmopolite, depuis le 19e siècle, avec l'ouverture des villes-ports au moment des traités inégaux. Elle est séduite probablement parce que c'est la ville où il y a le foisonnement économique et culturel est la plus importante. C'est aussi la capitale économique de la Chine, malgré tous les efforts que Pékin fait pour essayer de rattraper son retard. Et puis c'est encore une fois au niveau culturel aussi, Shanghai me paraît plus développé que Pékin. Encore une fois, Pékin fait tous ses efforts pour essayer de rattraper ça et même dépasser Shanghai au niveau culturel et économique, mais pour l'instant c'est encore ça. Et puis c'est une ville qui est pour un étranger qui est agréable à vivre, quoi, en fait. Hein. Il y a cette alliance de l'ancien et du nouveau, des rues qui sont bien tracées, des restaurants gastronomiques plus ou moins luxueux, toutes les formes de nourriture, toutes les spécialités mondiales se retrouvent là. Pour les étrangers, je pense que c'est une ville qui est beaucoup plus agréable, qui est moins à la limite, qui est moins chinoise que pourrait l'être Nanjing ou Canton ou Xi'an ou Hangzhou ou même Suzhou, quoi. C'est des villes qui sont plus occidentalisées. C'est une ville, pardon, plus occidentalisée. Donc ils ont peut-être moins l'impression de le dépaysement est peut-être moins violent, quoi, à Shanghai.
Vous dites aussi que c'est le temple de la folie mercantile et de la modernité en toc, tout de même.
Alors, il suffit de se balader dans les rues de Shanghai pour s'apercevoir que c'est ça, quoi. En fait, c'est pas bien difficile. Vous allez dans certains quartiers, des centres commerciaux avec tous les grands magasins, toutes les grandes marques du luxe occidental qui sont là, qui sont souvent vides à l'intérieur parce que personne n'a les moyens d'aller les acheter, à part quelques étrangers ou des Chinois riches. Mais les Chinois riches, ils sont pas non plus, ils sont pas si nombreux que ça, malgré ce qu'on peut nous en dire. La classe moyenne chinoise n'est pas majoritaire. Mais c'est un peu ça, quoi. Il y a une espèce de culte de l'apparence, en fait, à Shanghai. Et du clinquant, et des Mercedes, des BMW, des sacs Vuitton, plus ou moins faux, plus ou moins vrais. Des hôtels de super luxe. Donc ça donne un peu l'impression d'un foisonnement, mais d'un foisonnement en même temps très, très superficiel, quoi. Où l'argent compte plus qu'autre chose. Mais encore une fois, là aussi, c'est que c'est des généralités, ce que je vous dis. Hein. C'est pas non plus, parole d'évangile.
Certes, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on est sur place. Alors, le vrai sujet de Caprice de Chine, c'est finalement la société urbaine.
La société urbaine, oui, parce que probablement parce que c'est celle que je connais le mieux, et puis c'est celle qui est manifestement non, je peux pas vraiment dire ça comme ça, mais c'est celle où les tremblements de terre. Sociologie, culturelle, etc., actuelle qui se propage en Chine depuis une vingtaine d'années, c'est là où c'est le plus évident. Et c'est là où ça m'est le plus évident. Je connais mal les campagnes, enfin, j'y ai pas vécu, je m'y balade pas tous les jours, donc je pourrais raconter. D'ailleurs, la promesse de Shanghai, c'était ça, hein, le premier roman, c'était l'histoire d'un paysan. Là encore, l'imagination, il faut pas être. Enfin, c'est pas extrêmement difficile d'imaginer la vie d'un paysan en Chine, quoi. Ceci dit, c'est vrai que si on veut faire un contraste entre la Chine ancienne, la Chine moderne, les Chinois d'aujourd'hui et les étrangers, la ville est quand même le lieu où tout se rencontre, quoi. En fait, tout ce milieu occidental, chinois, tradition, modernité, etc., se concentre. Et donc, oui, j'en parle plus parce que ça me paraît plus évident.
Alors, il y a un coût humain très important de cette modernisation sans précédent. Que vous connaissez bien, parce que justement on a évoqué les Mingong tout à l'heure. Mais donc Caprice de Chine, c'est assez impressionnant.
Le coût humain, qu'est-ce que vous entendez par là Oui, ce qui me semble intéressant, c'est que effectivement il n'y a plus de morale en Chine, ni publique ni privée. Alors à partir du moment où il n'y a plus de morale, plus de guide, plus de garde-fous, plus de règles. Et là encore, pour un écrivain, c'est fantastique. Enfin, c'est fantastique. Pour raconter des histoires, pour les vivre, c'est peut-être autre chose. Mais le coût humain, il est là, quoi. On a l'impression que c'est un pays où, justement, il n'y a plus de morale, quoi. Et c'est à la fois désespérant, c'est à la fois fascinant. Mais probablement, effectivement, difficile à vivre, quoique. Mais encore une fois, Shanghai, c'est quand même une vie particulière, hein, dans l'univers chinois. C'est une ville qui a toujours été internationalisée ou internationale depuis donc l'ouverture dans les années 1850, donc qui est complètement. Les autres villes chinoises, c'est pas vraiment ça, hein, cette ouverture sur le monde. Puis cette ouverture un peu débridée, un peu. On a l'impression en fait de retrouver le Shanghai des années 20, quoi, en ce moment. Cette espèce de moment des années 20-30 où on voyait arriver là-bas aussi bien des Chinois que des Russes blancs, des prostituées, des Juifs, enfin, un espèce de melting pot de gens, de culture et d'affairisme, aussi au moment où il n'y a plus aucune moralité. On a l'impression de trouver un peu ça en ce moment, quoi, cette espèce de foisonnement débridé, de tout et de rien, de vide culturel, de clinquant, de fric, de trucs plus ou moins mafieux, parce qu'il y a quand même pas mal de mafieux. Il y en avait même à la tête le maire. Les affaires à la mairie de l'année dernière étaient quand même assez particulière. Donc un espèce d'affairisme ambiant qui n'est pas forcément le même, qui est assez différent dans les autres villes chinoises. Shanghai, je pense que c'est une ville quand même vraiment, qui est vraiment particulière en Chine.
Alors, il y a certaines histoires qui font sourire, mais d'autres qui font froid dans le dos. Alors, vous me disiez qu'il y en a que vous aviez inventées, mais la réalité, vous avez rattrapé. En fait, vous les avez simplement écoutées autour de vous.
Ça, c'est ce que... Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, en fait? Un écrivain, c'est une éponge. Hein, c'est quelqu'un qui vampirise tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il observe autour de lui, et puis un jour il se décide de lire tout ce qu'il a entendu, absorbé, etc., écouter, regarder. Un jour ou l'autre, il a besoin de passer le cap et d'écrire tout ce qu'il a absorbé, etc. Moi, c'est ça, je suis une éponge, en fait, hein, j'ai pas... Alors je regarde, j'écoute, je lis, j'entends, j'observe, et ça j'observe depuis des années, quoi, en fait. Et donc tout ce que j'ai pu absorber, je le ressors plus ou moins bien, ou plus ou moins complètement dans ce que j'écris.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses vraies.
Dans ce que j'écris ou dans ce qui se passe en Chine?
Dans les histoires qu'il y a dans Caprice de Chine.
D'abord, il y a le fond. Je veux dire, quand je parle de la Chine, enfin, ou des Chinois, encore une fois, mon expérience est extrêmement subjective, et de toute façon, je ne suis pas chinois, je ne suis pas sinisé non plus. Et donc la vision que je peux avoir de la culture chinoise ou du monde chinois ou de la vie chinoise est quand même extrêmement fragmentaire, hein, et donc partielle. Et c'est ce petit fragment que j'ai pu que j'ai pu collecter en moi me sert dans ce que j'écris, si vous voulez. Mais encore une fois, c'est une vision à moi. Je veux dire, je suis pas journaliste, je suis pas sinologue, je suis pas sociologue, j'ai pas vocation à prêcher ou à donner des leçons sur la Chine ou les Chinois. C'est juste, je raconte des histoires, en fait, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient pas vraies, qu'elles soient à moitié vraies ou à moitié fausses. Bon, à la limite, c'est pas le plus important, je pense.